Je vous propose maintenant de commenter le texte sur le péché originel à la page 42 du livret Le carnet de route des fiancés. Cependant, avant que je fasse ce commentaire, je vous invite à l'avoir lu, à avoir lu ce texte, et puis à vous être interrogé sur les trois questions suivantes. Première question, pourquoi, à votre avis, est-ce que le serpent s'adresse à la femme plutôt qu'à l'homme? Voilà la première question. Deuxième question, à votre avis, est-ce mal de vouloir être comme des dieux ou comme Dieu? C'est la même traduction en fait. Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Troisième question, qu'est-ce qui, selon ce que vous avez compris du texte, a été brisé en l'être humain après le péché? Qu'est-ce qui a été brisé dans son rapport à Dieu, dans son rapport à l'autre sexe, dans son rapport à la création, dans son rapport à soi-même? Voilà les trois questions sur lesquelles je vous invite à échanger avec votre fiancé. Et puis, cela étant, vous pouvez écouter le commentaire. Ce troisième chapitre du livre de la Genèse est un texte qui est à la fois très connu et peut-être aussi l'un des plus mal compris. C'est un texte qui est vraiment charnière parce que c'est lui qui permet de comprendre comment on passe d'un monde dont on nous disait que Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon, à un monde, celui que nous connaissons aujourd'hui et que lorsqu'on le regarde, l'actualité, les maladies, la mort, la souffrance, la détresse, ne nous permettent plus de dire que tout est très bon. Alors comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? La clé de compréhension se trouve dans ce chapitre 3. Je vais maintenant lire et commenter le texte au fur et à mesure. Le serpent dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» On peut déjà faire une pause ici. On peut déjà faire une pause ici, pourquoi? Parce que, très subtilement, le serpent est en train de changer l'image que l'on se fait de Dieu. Dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, Dieu avait commencé par faire un don. Dieu avait donné à l'homme tous les arbres du jardin dont il pourrait manger. Et puis ensuite, il avait mis une restriction, un avertissement, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, « Tu n'en mangeras pas, car du jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. » Ça peut sembler anodin, mais ce n'est pas exactement la même chose quand vous présentez quelqu'un comme quelqu'un qui donne, quitte à ce qu'il mette une restriction, ou de le présenter d'abord comme quelqu'un qui interdit « Vous ne mangerez pas. » Le serpent présente Dieu insidieusement d'abord comme celui qui interdit, comme celui qui restreint ce à quoi on avait accès. Je reprends la lecture. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Je m'arrête ici car il y a quelques petites subtilités. La première chose, c'est de faire mémoire de ce qui est dit au chapitre 2. Parce qu'au chapitre 2, l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est peut-être pas loin, mais ce n'est pas sur lui que le jardin est centré. Le jardin était centré sur l'arbre de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, avec sa question, le serpent vient de modifier dans l'esprit de la femme la façon dont elle percevait le jardin. Désormais, la femme perçoit le jardin comme étant centré sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et non plus sur l'arbre de vie qui, je le rappelle, était en libre accès pour l'homme et pour la femme. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Je pense qu'il y a un élément qui est très éclairant, c'est lorsqu'on se souvient que, en hébreu comme en grec, le verbe que l'on utilise en français pour dire pêcher, non pas à la ligne les poissons, mais pêcher commettre un mal, c'est un verbe qui littéralement signifie rater la cible. Vous prenez votre arc, vous visez, vous lâchez la flèche et paf, vous avez raté la cible. C'est ce verbe-là qu'on utilise pour dire péché. Et donc il y a un des motifs pour lesquels on rate la cible, c'est que on se trompe de centre. Si vous ne visez pas le centre de la cible, il y a peu de chances que vous l'atteigniez. Si vous visez 8 mètres à gauche de votre cible, il y a peu de chances que vous l'atteigniez. Eh bien, la tentation, c'est ça. La tentation, c'est de nous faire prendre comme la chose la plus importante ce qui n'est pas le plus important. La tentation vient perturber notre hiérarchie de l'ordre des biens. Oui, on peut classer les biens en fonction de leur importance. Et puis, voilà, la tentation vient perturber la juste classification. Et je vous donne un exemple tout simple dans notre vie parfois courante. Hein, c'est imaginer dans un couple, on leur poserait la question, vous voyez votre conjoint rentrer du travail avec la mine préoccupée, la mine défaite. Qu'est-ce qui est le plus important, à votre avis, d'aller lui demander ce qui se passe ou bien d'aller sortir le chien? À froid, vraisemblablement, tout le monde répond, ben non, le plus important, c'est de prendre soin de mon conjoint, de lui demander ce qui se passe. Et pourtant, ben vous savez que dans les faits, concrètement, si moi-même j'ai une journée compliquée, difficile, je vois l'autre arriver avec une tête compliquée et difficile, eh bien, franchement, hein, le chien, il a ses chances. Hein. Il est possible que je me dise, oh là là, ça va être compliqué tout ça, il vaut mieux faire un petit tour avec l'animal autour du pâté de maison, et puis, avec un peu de chance, je n'aurai pas à m'en préoccuper. Alors qu'on était capable, à froid, de voir ce qui était le plus important, sur le moment, on peut choisir un autre, entre guillemets, bien. C'est ça la tentation, faire passer ce qui n'était pas le plus important comme s'il était le plus important. Deuxième petite remarque, est-ce que Dieu avait dit ça véritablement? Parce qu'en fait, la femme a rajouté une parole. Elle a rajouté une parole, vous n'y toucherez pas. Dieu avait simplement dit, vous n'en mangerez pas. Mais on peut le regarder, il n'y a pas de problème. On peut même le toucher, mais il ne faut pas en manger. Et là, il y a aussi une chose importante à voir, c'est que nous sommes appelés à conserver fidèlement la parole de Dieu. Nous sommes appelés à conserver fidèlement la parole de Dieu, sans rien ajouter et sans rien enlever. Celui qui trafique la parole de Dieu, soit par omission, soit par des ajouts indus, en fait se met en danger. Souvenez-vous que dans l'Évangile, dans l'épisode des tentations de Jésus au désert, le diable utilise la parole de Dieu, utilise des citations de la parole de Dieu pour essayer de conduire Jésus en tentation. La parole de Dieu doit être conservée telle qu'elle est. Je reprends la lecture. Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Et vous serez comme des dieux, ou bien comme Dieu, on peut traduire ainsi, connaissant le bien et le mal. Le cœur de l'intervention du démon ici est à nouveau de changer la perception que l'on a de Dieu. Il était présenté par lui comme celui qui interdit, il devient carrément maintenant l'obstacle entre mon plus grand bien et moi. Et en même temps, Dieu aussi nous aurait menti. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu vous a dit que vous ne mourrez pas. Et Dieu veut vous empêcher d'advenir à votre plus grand bien, d'être comme des dieux, d'être comme Dieu. En fait, le serpent vient mettre en doute la qualité de l'amour que Dieu nous porte. Il vient mettre en doute la qualité de l'amour que Dieu nous porte. Notons au passage l'ambiguïté de connaître le bien et le mal. Jusqu'à présent, l'homme et la femme ne connaissaient que le bien. Il y a vraiment une chose importante à saisir ici, parce que dans la perspective biblique, le mal, c'est un déficit de bien, c'est qu'il manque quelque chose, il y a un défaut. Comme on pourrait dire que la maladie, c'est un déficit de la santé. Le mal n'existe pas en soi, il est un bien qui a été dégradé, c'est-à-dire qu'il faut au moins, je veux dire, ne serait-ce ce bien de la vie pour que le mal puisse s'exercer. Ou comme on pourrait dire que le mensonge parasite la vérité. Le mensonge où tout serait complètement faux ne peut pas accrocher quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait une petite base de vérité sur laquelle s'accrocher, et c'est là qu'il devient mortel. Souvenons-nous aussi que le verbe « connaître » chez les Hébreux se comprend un peu différemment de chez les Grecs. Chez les Grecs, c'est un terme qui est très intellectuel. Chez les Hébreux, c'est quelque chose qui va à l'intime. Je vous donne un exemple stupide. Le grec se satisfait par rapport à l'éclair au chocolat d'en connaître la recette. Voilà, ça suffit à son intellect. Mais pas l'hébreu. L'hébreu, s'il veut utiliser le mot de connaître, il faut qu'il en connaisse la recette de cet éclair au chocolat, qu'il le mange et qu'il en soit nourri. C'est-à-dire, s'il le vomissait, il n'en serait pas nourri, il ne le connaîtrait pas vraiment. Or, voici que le serpent leur propose comme une chose extraordinaire de connaître le bien et le mal. Ils n'expérimentaient jusqu'à ce jour que le bien. Le serpent va les conduire à expérimenter l'absence de bien, le déficit du bien. On peut lire aussi le fait de connaître le bien et le mal en l'associant à la revendication d'être le principe soi-même de la détermination de ce qui est bien et de ce qui est mal. Or, la créature se reçoit. La créature reçoit la vie. La créature n'est pas au fondement de son être et au fondement du monde. Elle le perçoit, elle interagit avec lui, mais elle le reçoit d'abord. En voulant être celui qui connaît le bien et le mal, l'homme prétend se faire Dieu, non pas avec Dieu, mais sans Dieu, voire malgré Dieu, voire contre Dieu. C'est l'entrée, en fait, dans un orgueil fou qui oublie la réalité de notre condition de créature. En même temps, vous comprenez bien que le désir d'être comme Dieu est un vrai désir et est un bon désir. Parce que la vie éternelle qui nous est proposée, le sens du baptême, c'est d'être rendu participant de la vie de Dieu. Donc, le serpent a voulu faire croire que Dieu voulait nous garder à distance de sa propre vie, alors que ce n'est pas le cas. On le dit à chaque messe, vous savez, quand à la doxologie, le prêtre va dire « par lui, avec lui et en lui ». À toi Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, mais qui signifie que par le Christ, avec le Christ, dans le Christ, nous participons à la vie de Dieu. Dieu veut nous donner de participer à sa propre vie. Dieu veut nous diviniser, mais non pas sans lui, malgré lui, contre lui, mais par lui, avec lui et en lui. Le piège est tendu. Et vous remarquerez que le serpent n'a forcé et ne force personne. Il a juste parlé. Il a juste introduit une réflexion, une suggestion dans l'esprit de la femme. Je reprends le texte. La femme prit de ce fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors vous voyez donc que l'homme était présent. Et ça pose une véritable question. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu s'il était là ? Il était lui aussi le gardien de la parole, il l'avait reçu. Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas pour dire ce que Dieu, pour rappeler ce que Dieu avait effectivement dit? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas en aide à la femme? Et de fait, dans la tradition, on parlera beaucoup plus souvent du péché d'Adam que du péché d'Ève. Alors d'où la question que je vous demandais de vous poser avant de lire, d'écouter ce commentaire. Pourquoi est-ce que le serpent s'adresse à la femme? Alors, si vous êtes un peu misogyne, vous allez dire, ben, parce qu'elle est plus crédule, parce qu'elle est plus faible, parce qu'elle est moins spirituelle, et vous allez essayer de déverser, j'allais dire, tous vos a priori, peut-être, ça peut être assez amusant à faire. Mais en fait, là n'est pas le sens de l'attaque du tentateur. Le serpent s'adresse à la femme parce qu'au chapitre 2 de la Genèse, elle est présentée comme l'aide qui correspond à l'homme. Elle est présentée comme l'équivalent du secours divin. Dieu a donné ce secours divin à l'homme. Eh bien, le serpent va pourrir ce don. Le serpent veut attaquer de toutes ses forces ce don pour qu'il devienne un cadeau empoisonné. Et vous allez voir la suite du texte, combien le venin du serpent fait effectivement son effet. Si le serpent s'attaque à la femme, c'est qu'elle était le don, le secours divin que Dieu faisait à l'homme et qui permettait aux deux de s'élever. Rappelez-vous le cri de joie de l'homme, celle-ci pour le coup est l'os de mes os, la chair de ma chair. Le texte va continuer avec une ironie triste. Il nous dit ceci, « Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte, on pourrait mettre trois points de suspension, que quoi, qu'ils étaient comme des dieux, qu'ils étaient nus. » Quelle désillusion. Au départ, on nous disait qu'ils étaient nus l'un devant l'autre sans en avoir de honte, nus l'un devant l'autre, c'est-à-dire capables de se voir dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, dans son intimité, et il n'y avait pas de menace dans le regard de l'un, il n'y avait pas de menace dans le regard de l'autre, ni de soupçon de menace dans le regard des deux. Ils pouvaient être présents, intimes, fragiles, l'un avec l'autre. Et désormais, cela est impossible. Et la première chose qu'ils font, et c'est dans le passage qui a été coupé, ils vont se faire un pagne avec des feuilles de figuier. Il y a quelque chose d'à la fois triste et de beau dans ce pagne qui est constitué. Comment cela? Mais oui, c'est à la fois de triste parce que c'est le signe qu'ils ne peuvent plus se voir dans l'intimité, dans la profondeur de leur être, et en même temps, c'est la manifestation du désir qu'ils ont de continuer à être ensemble, sinon ils partiraient chacun à l'autre bout du jardin. Non, ils ne peuvent plus se voir dans cette même intimité, mais ils ont encore le désir d'être ensemble. Mais cette capacité à être ensemble a été blessée. Cette capacité à être ensemble était pourtant une force et une défense importante, incroyable. Vous avez remarqué, les yeux de la femme ne se sont pas ouverts immédiatement quand elle a mangé du fruit. C'est lorsque les deux sont tombés que les conséquences sont portées sur les deux tristement. Tant que l'un tenait, les deux avaient une chance. Le texte va mettre en scène ensuite les différentes brisures qui ont survenu. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. C'est-à-dire, quelle intimité, la voix du Seigneur qui se promenait dans le jardin. Il y avait cette grande intimité, la proximité de Dieu, et pourtant, quelle est leur réaction? L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Ils ont peur. Voilà que du Dieu qui ne leur a fait que du bien, ils ont peur. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ?» Là, il y a aussi quelque chose à remarquer. Il est Dieu, il n'a pas besoin de poser la question pour savoir où est l'homme. Mais voilà que, plutôt que de le saisir, on pourrait dire par la peau du coude derrière le buisson, Dieu s'adresse à lui pour le remettre dans un dialogue. Dieu veut remettre l'homme comme un partenaire alors que l'homme s'est enfui. Il lui redonne une place par sa recherche. L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » On a la confirmation de cette peur qui a saisi le cœur de l'homme parce que le visage de Dieu est désormais pour lui défiguré. Dieu, il le voit comme une menace. La façon dont il se perçoit lui-même a été atteinte. Il ne se voit plus comme capable de tenir devant Dieu. un peu comme la feuille de papier à qui on présenterait un brasier, se dit « Ah non, je ne vais peut-être pas aller dans le brasier parce que je vais périr, je vais être dévoré par ce brasier. Je me suis caché. » Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Souvent, en une lecture rapide, nous aurions envie de mettre un ton de voix dans la voix du Seigneur, un ton de voix courroucé, du style « Je t'avais interdit de manger de cela ». C'est un peu « Viens prendre ta baffe », passez-moi l'expression. En fait, si nous mettons ce ton de voix, ça veut dire que nous prêtons effectivement à Dieu la représentation du serpent, les traits que veut en donner le serpent. Un Dieu courroucé qu'on ait touché à son bien, le bien qu'il voulait se préserver. Alors que ce n'est pas ce qui se produit, c'est une vraie question que Dieu pose, et il donne un espace à une vérité et à une demande de pardon. Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? Oui, j'en ai mangé. Pardon. Il y avait la place pour le dire. Il y avait la place pour le dire. Mais que répond l'homme ? Et c'est là où on va voir le poison déversé par le serpent. La femme. Alors voilà, on était passé de l'os de mes os, la chair de ma chair, avec ses possessifs si intenses, à la femme, un beau démonstratif, hein, là c'est « reste à distance ». La femme, que tu m'as donné, tu me l'aurais pas donné, ça se serait pas passé, hein, le responsable c'est toi. C'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. De demande de pardon, et il n'y en a pas. Deuxième chance, le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là ? Là aussi, il y a une possibilité, il y a la place d'une demande de pardon. Et souvenez-vous, quand tant que les deux n'étaient pas tombés, la catastrophe n'avait pas encore eu lieu. Il y a un espace pour être relevé. La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Là encore, aucune demande de pardon. L'occasion d'entrer dans la miséricorde n'a pas été saisie. Une question se pose cependant sur cette mort dont parlait Dieu en mangeant ce fruit. Et là, pour entrer dans la compréhension, je pense qu'il nous faut faire une distinction entre ce que l'on pourrait appeler une punition surajoutée ou un mal provoqué par la chose en elle-même. Je vous donne un exemple pour mieux le comprendre. Quand vous dites à un enfant, si tu manges les confitures qui sont dans l'armoire, je te donnerai une fessée, c'est une punition surajoutée. Voilà, on peut manger des confitures sans forcément avoir mal au derrière. On aura mal au derrière à cause de la punition surajoutée, la fessée. En revanche, si vous vous promenez dans la nature et que vous voyez des baies de belladone et que vous en mangez, vous allez avoir une sérieuse colique, parce que l'organisme humain ne supporte pas la belladone. C'est un produit qui est pour lui vénéneux. Et donc, on va dire la diarrhée qui s'ensuit, elle est intrinsèque au fait de manger de ce fruit, de cette baie, pour l'être humain. Et donc la question autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est bien cela, le serpent essaie de dire, de faire croire que c'est une punition surajoutée par Dieu, vous ne mourrez pas, vous pourriez en manger sans mourir. Tandis que dans l'esprit de Dieu et dans l'avertissement de Dieu, Dieu a donné cet avertissement à l'homme parce que le fruit de la connaissance du bien et du mal ferait mourir l'homme. L'homme était fait pour le bien, pas pour expérimenter le mal. Alors certains s'interrogent quand même en se disant, mais est-ce que c'est pas un peu tordu de la part de Dieu d'avoir mis cet arbre dans le jardin ? Alors ça aurait été tordu si Dieu leur avait dit, je vous donne tous les arbres du jardin, mais attention, il y en a un qui vous fait mourir et je vous dis pas lequel. Ah oui, là effectivement ça aurait été tordu. Mais là il leur a présenté, identifié cet arbre qui pouvait être beau à voir, à regarder, peut-être même agréable à toucher, mais l'usage, en manger, faisait mourir. Je vais prendre là encore une analogie. Dans votre maison, vous avez des prises. Vous avez vraisemblablement à apprendre à vos enfants, en particulier quand ils sont petits, à ne pas mettre leurs petits doigts dans la prise. Et pourtant, vous allez leur dire, alors peut-être qu'ils vont être curieux, mais vous allez leur expliquer qu'il ne faut pas faire ça parce qu'ils risquent leur vie. Mais est-ce qu'il faut du coup ne jamais avoir de prise, n'avoir aucune prise? Elles ont leur utilité, mais elles ont aussi leur dangerosité. Il y a un apprentissage qui doit être fait et qui passe, je vais dire, d'abord par une confiance. L'enfant va d'abord faire confiance aux parents sur la dangerosité de la prise, avant de pouvoir d'ailleurs comprendre plus tard pourquoi mettre ses doigts dans la prise peut provoquer un choc électrique qui peut causer sa mort. La suite du texte va lister les conséquences du péché, va décrire cet ordre issu du péché qui désormais va régner sur le monde. Et comprenons bien que cet ordre que nous allons décrire est en fait un désordre. Il n'est pas ce que Dieu avait voulu. Les rapports qui en sont issus ne sont pas ceux que Dieu avait prévus pour l'homme. Ce sont des rapports qui ont dégénéré à cause de la blessure du péché. Je reprends la lecture. Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, « Je multiplierai la peine de tes grossesses. » Alors nous avons là une chose qui peut nous troubler. C'est la construction de la phrase, c'est bien Dieu qui va multiplier la peine des grossesses de la femme. Et là on se dit, dis donc, c'est pas très sympathique, ils vont déjà pas bien, et en plus on en rajoute une couche, là c'est tiré sur l'ambulance. Alors il faut avoir là une connaissance de l'époque à laquelle ce texte est écrit. Ce texte est écrit en période d'exil à Babylone, où il y a toute une relecture de l'histoire sainte, mais aussi, avec l'époque du prophète Isaïe au temps de l'exil, une affirmation particulière qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur Dieu. C'est quelque chose d'important, hein, parce que pendant très longtemps, Israël n'a adoré qu'un seul Dieu, le Seigneur, qui s'est révélé à Abraham, à Moïse. Mais il pouvait exister dans l'esprit des gens d'autres dieux, des dieux d'autres peuples, simplement Israël ne les adorerait pas. Là, dans la révélation, il y a une avancée pour dire « il n'y a pas d'autre dieu que le Seigneur Dieu ». Donc les autres dieux n'existaient pas. Or, quand on annonce cela, il va falloir du coup prendre la responsabilité de toutes les choses qui arrivent. Parce que toutes les choses qui arrivent, elles sont du coup sous la responsabilité de Dieu qu'il les ait causées directement ou qu'il les ait tolérées. Vous voyez, dans un panthéon où vous aviez des dieux du bien et des dieux du mal, eh bien quand il se produit quelque chose de mauvais, vous le mettez sous la responsabilité des dieux mauvais. C'est d'ailleurs pour ça que en Amérique, il y a des tribus indiennes justement qui n'offrent des sacrifices que à leurs dieux mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils disent, aux dieux bons, ils sont bons, c'est pas la peine. Mais c'est les mauvais qu'il faut apaiser pour qu'ils nous laissent tranquilles. Là, on vient d'affirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc tout ce qui advient est sous sa responsabilité. Et donc là, la multiplication des peines, des grossesses, sont placées sous la responsabilité de Dieu. Quand bien même elles sont un fruit du péché, elles sont placées sous la responsabilité de Dieu parce que on ne peut pas laisser croire qu'il y a un autre Dieu à côté du Seigneur. Alors c'est plus tard, il y aura d'autres textes de l'Écriture qui vont permettre de contrebalancer cette force, voire cette violence de l'expression « je multiplierai la peine de tes grossesses ». On aura par exemple avec le prophète Ézéchiel, Dieu qui dit « Je ne prends plaisir à la mort de personne, je ne prends pas plaisir à la mort du pécheur, mais bien plutôt à ce qu'il se convertisse et qu'il vive. » Dans le livre de la Sagesse, on entendra « C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. » Mais à cette époque-là, au moment où c'est écrit, la responsabilité doit être placée en Dieu, d'où ce « je multiplierai la peine de tes grossesses ». Souvenons-nous aussi que dans les textes de l'Écriture, tout n'est pas toujours dit au même moment, hein. Il y a bien une évolution de l'écriture. Il y a des textes qui insistent sur tel point et qui doivent être enrichis par d'autres textes de l'écriture pour saisir l'intégralité de la foi. Revenons sur ce que cela signifie. La première chose à noter, c'est que la bénédiction de la vie subsiste. La bénédiction de la vie subsiste, cependant, elle est désormais parasitée par la souffrance. Les grossesses subsistent, la vie subsiste, mais elle est parasitée par la souffrance. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari. Il vaudrait mieux lire ta convoitise pour garder au désir son caractère bon. Ta convoitise, c'est généralement ce qu'on a plutôt pour des choses, pas pour des êtres. Ta convoitise te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. Comprenez bien que cela est un désordre. Ils étaient appelés à dominer ensemble sur les animaux, pas à dominer l'un sur l'autre. Et donc c'est un désordre qui sera désormais observé dans la relation homme-femme. Au lieu d'être aide mutuelle, équivalent du secours divin, il y aura entre eux une lutte de domination en défaveur de la femme, ce qui n'était pas le plan de Dieu. Je poursuis la lecture. Il dit enfin à l'homme, « C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. » Là encore, la bénédiction première subsiste, celle qui consistait à transformer la terre. Dieu avait donné la terre à l'homme pour qu'il en tire sa subsistance, pour qu'il en soit le gardien. Il est toujours capable de la transformer, de faire jaillir le pain, mais désormais, c'est à travers un travail qui est devenu pénible. La pénibilité est entrée dans le travail est devenu pénible. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. Et puis, on continue en disant « Jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » Voilà qu'il y a quelque chose de paradoxal, parce que, assurément, l'homme avait été façonné de la glaise du sol, de la poussière du sol, mais l'homme n'était pas que poussière. L'homme était aussi cette glaise façonnée à laquelle Dieu avait insufflé son haleine de vie. L'homme était cette union de matière et d'esprit. Et voilà qu'il va se trouver séparé, divisé, dans cette position absurde. Il est normalement corps et âme, et son corps va tomber en poussière, et son âme humaine, qui est normalement l'âme d'un corps, va se retrouver sans son corps. Voilà ces désordres issus du péché, fruits du péché qui ont été listés. Le fait que la perception du visage de Dieu a été défigurée, la perception du rapport de l'être humain par rapport à lui-même a été aussi défigurée, il pense ne plus pouvoir se tenir devant Dieu, le rapport à l'autre sexe a été blessé, le rapport au monde a été blessé lui aussi. Alors j'ai conscience d'avoir pris beaucoup de temps pour faire ce commentaire, mais je crois que c'est un texte tellement fondamental qu'il vaut le coup de prendre le temps de bien le comprendre. Nous allons maintenant essayer de tirer les conséquences pour la vie de couple de ce texte lui-même.